Bonjour à tous. Ah, ça marche. Étienne me le dit souvent, j'ai la voix qui baisse. Et donc, j'ai la voix qui baisse à la fois dans le volume et dans la tonalité. Donc, ceux du fond, si vous ne m'entendez plus par moment, vous faites ça. Et j'essaierai de monter la voix pour que vous puissiez m'entendre. Mais c'est voilà, j'ai une petite faiblesse, j'ai la voix qui baisse pendant mon message. Merci Étienne de veiller sur moi. On a chanté qu'il est merveilleux dans tout ce qu'il est, dans tout ce qu'il fait. Et ce que je vous propose ce matin, c'est qu'on constate cela par un chapitre tout particulier. Et on est presque encore dans Pâques. On est dans la dernière journée avant la crucifixion, cette dernière soirée, et Jésus va, comme on le voit en Jean 13, mettre le comble de son amour pour eux. Il va se mettre à genoux. Il va le mettre à genoux et laver les pieds de ses disciples. Il va leur donner ce commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il va leur parler de cette place qu'il va leur préparer dans la maison du Père. Il leur parle du Père, de son unité avec le Père et qu'il part vers le Père. Il leur dit qu'un consolateur va venir, qui va demander au Père de l'envoyer. Et puis, il va lever les yeux au ciel et parler à son Père. Et c'est ça que je vous propose de lire ce matin. C'est Jean 17. Si le PowerPoint veut se mettre. Et je vous propose de, contrairement à ce que je vous dirai tout le temps, qui est plutôt d'amener vos Bibles et de lire la Bible et de l'ouvrir devant vous, je voudrais qu'on puisse mesurer la beauté de ce chapitre, de cette prière de notre Seigneur à son Père, et pour qu'on puisse vraiment ne pas être distrait par ce qui se passe dans la salle, par ce que fait votre voisin. Prenez la méthode qui vous convient. S'il faut fermer les yeux pour que vous puissiez vraiment être concentré pour écouter cette prière, fermez les yeux. Si vous devez regarder le plafond, regardez le plafond. Trouvez la méthode qui fait que vous ne soyez pas distrait et que vous soyez vraiment dans l'écoute de cette merveilleuse prière de notre Seigneur à son Père. Je vais la lire. Jean 17. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. » Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi, et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues, et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés. Parce qu'ils sont à toi, et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi. Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné, et aucun d'eux ne s'est perdu. Sinon le fils de perdition, afin que l'écriture soit accomplie. Et maintenant je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. » Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous nous sommes un, moi en eux, toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. C'est un long chapitre, c'est une magnifique prière qui contient vraiment des trésors, et j'ai voulu la lire complètement, même si quelque part je vais éclairer 2-3 petits points, 2-3 versets sur une quarantaine, non sur 26 versets. Et quelque part tout ce que je vais dire n'est rien en comparaison de ce texte, de la parole de Dieu et de cette prière du Fils au Père. Et au-delà de ce que je vais dire, je vous invite cette semaine à la relire. Faites l'exercice de la lire chaque jour pendant une semaine pour vous laisser nourrir par cette magnifique prière du Fils à son Père qui parle de vous. Si tu veux avancer, il faut que tu avances deux fois. Juste en introduction, cette prière comporte trois parties. Une première partie sur les 5 premiers versets où il parle de lui-même, de son œuvre sur la terre, de sa glorification qui va bientôt intervenir. Puis des versets 6 à 19, il va prier pour ses disciples, les 11, qui sont à côté de lui. Et puis enfin, à partir du verset 20, il va prier pour ceux qui croiront en lui par leur parole. Ceux qui croiront en Christ par la parole des apôtres. Et donc c'est nous. Deuxième point que je veux souligner rapidement, c'est qu'il intercède pour ses disciples dans cette prière, comme il le fait aujourd'hui pour nous. Et on trouve par deux fois dans la parole. Et je vais juste lire Romains 8, 34. Mais on trouve ça aussi dans l'Épître aux Hébreux. Jésus est présenté comme le souverain sacrificateur qui va intercéder auprès du Père. Et pas comme s'il l'avait fait uniquement en Jean 17, mais qui va le faire continuellement et encore aujourd'hui. Romains 8, 34, qui les condamnera, Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Et il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Et on a la même pensée dans l'Épître aux Hébreux. Et je voudrais souligner la manière dont Jésus-Christ intercède pour nous, comme il intercède pour ses disciples. Dans ce qu'il partage à son Père, vous ne trouverez rien de négatif sur ses disciples. Et pourtant, ses disciples, quelques jours avant, se bagarraient pour savoir lequel serait le premier, lequel serait à la droite de Jésus. Quelques instants plus tard, ils vont fuir, ils vont renier leur Seigneur. Il y avait de multiples raisons de présenter leur faiblesse. Ce n'est absolument pas ce que Christ présente à son Père. Il a un vrai regard de grâce. Et je crois que lorsque notre Seigneur parle à son Père, lorsqu'il intercède pour nous actuellement, il va nous présenter, comme on le verra plus tard, comme un cadeau de son Père. Et puis il va prier pour, comme on voit dans cette prière, au verset 15, on voit qu'il prie pour la protection Il prie pour notre protection. Il intercède auprès du Père pour notre protection. Il intercède au verset 17 pour notre sanctification, pour que nous soyons saints. Et puis au verset 21, il intercède pour que nous soyons un. Toujours avant d'aller plus loin, je voulais souligner que dans cette prière, quelque part, on n'est pas acteur dans ce chapitre-là. C'est un chapitre où Dieu ne nous demande pas d'agir, Dieu ne nous demande pas d'agir. Il nous partage ce que lui demande au Père, et on voit ce que Dieu fait, on voit ce que Jésus fait. Et quelque part, on est des objets qui recevons la grâce de Dieu, et on n'est pas des acteurs. Il y a d'autres passages où il parle d'être acteur, où il parle de faire. Et c'est ce qu'on voit par exemple dans les précédents chapitres de l'évangile de Jean. Mais dans ce chapitre-là, on est des objets de sa grâce. Et quelque part, ça veut dire qu'il n'y a pas forcément beaucoup de choses à faire, si ce n'est que de voir combien notre Dieu est merveilleux pour nous, de le louer, de l'adorer, et que ça nous encourage à être toujours plus entiers et fidèles pour lui. Néanmoins, à la fin, j'aurai quelques actions pratiques quand même pour que vous ne partiez pas sans devoir pour la semaine. Je vais traiter deux points ce matin principalement parce que voilà, il y en a tellement à parler, mais c'est une expression qui m'a vraiment marqué. Et si tu veux passer cette expression qu'on retrouve plein de fois et qui m'a beaucoup perturbé au départ, c'est que Jésus affirme que ses disciples, en fait, Dieu lui a donné. En fait, moi d'habitude, je dis, mais Dieu, enfin, c'est pas moi qui ai donné à Jésus, c'est Dieu me donne Jésus, en fait. Dieu nous a donné Jésus. Là, c'est pas ça qui est dit, c'est l'inverse. Et vous le voyez dans tous ces versets. Verset 2, en fait, il dit, à tous ceux que tu lui as donné. Verset 6, j'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donné. Ils étaient à toi, le Père, et tu me les as donnés. Verset 9, je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés. Et verset 24, Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi. Et on est dans la partie qui ne parle pas des apôtres, mais qui parle de tous les enfants de Dieu. Et c'est un peu perturbant, puisque c'est quelque part le Père qui me donne au Fils. Et là, je ne suis pas acteur, hein. Le don du Père au Fils. Étonnant. On retrouve cette pensée en Jean 6. Il avait déjà partagé ça. En Jean 6, et je vais lire à partir du verset 35 jusqu'au verset 39, on retrouve cette même idée. Jésus dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais soif. Celui qui croit en moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez point. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de tous ceux qu'il m'a donné. Mais je les ressuscite au dernier jour. Même pensée que le Père donne à son Fils. Ses disciples, nous-mêmes. Et en fait, ça nous amène à cette vérité que ça nous amène au choix de Dieu. Et ça nous amène à ce qu'on peut lire en Éphésiens 1. Et on va lire Éphésiens 1, qui reste un grand mystère, mais qu'on va... Éphésiens 1, verset 4. « En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui, et nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. » Quelque part, que ce soit en Jean 17 ou dans ce texte-là d'Éphésiens, c'est comme si nous appartenions au Père, donné au Fils, parce qu'il nous a choisis de toute éternité. Et ça nous perturbe. Ça nous perturbe, parce que dans notre logique, qu'on pense quelque part toute suffisante, on en conclut que si Dieu nous a choisis, ben, ceux qu'il n'a pas choisis sont perdus. Et ça nous pose problème. Et puis dans cette logique-là, ça enlève la responsabilité à l'homme, puisque Dieu qui choisit, donc l'homme n'est plus responsable. Et ça fait des nœuds à notre cerveau, en tout cas au mien. Et pourtant, Jésus a dit, tu me les as donnés. Et en même temps, Jésus dit, chaque fois qu'il s'adresse aux foules, il leur dit, repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Jésus va en permanence appeler les hommes à être responsables et à faire un choix, le choix de la vie. D'ailleurs, qu'est-ce que Jésus dit à ses disciples dans Jean 17, si on revient dans cette parole ? Quand il parle de la réaction de ses disciples, il dit « Ils ont reconnu que je suis sorti du Père, ils ont reçu mes paroles, ils ont cru. » Qui montre bien leur responsabilité d'avoir fait ce choix. Il y avait beaucoup de disciples autour de Jésus-Christ. Il y avait des foules entières. Mais beaucoup sont partis, beaucoup ont dit « Non, merci. » Ça ne m'intéresse pas. Mais les disciples, eux, ont fait ce choix de croire. Et c'est la responsabilité de tout homme. Et si certains dans cette salle n'ont pas encore fait ce choix de responsabilité, ben Dieu vous invite encore aujourd'hui à faire ce choix de croire que vous n'êtes pas suffisant pour vous sauver, mais que seul Jésus-Christ et son sang peuvent vous sauver. Et que vous êtes responsable de faire ce choix. Et donc là, on touche à la limite de notre compréhension humaine. Et beaucoup d'encre a coulé. Hein. Vous avez des livres entiers, pour essayer de réconcilier ces deux vérités. En faisant appel à beaucoup de raisonnements, et pour quelque part supprimer une part de mystère. Alors ce que je vous partage ce matin, quelque part, c'est ma compréhension de ce mystère. Et pour en avoir discuté avec Olivier, parce que hier j'étais un peu perturbé par ça, j'ai revérifié ce qu'il y avait dans la confession de foi. Et quelque part, il n'y a rien dans la confession de foi qui est contre ce que je vais vous dire, mais c'est même pas dit dans la confession de foi. Donc je veux juste, avant de ce que je vais vous dire, que vous mesurez qu'il y a une partie qui est de moi, peut-être. Voilà, je veux juste être juste avec vous. Et ma compréhension, c'est que les deux sont vrais, et que je veux laisser ce mystère à Jésus, à Dieu. C'est que, à ceux qui ne croient pas en lui, je dis, tu es responsable, choisis la vie. Et à ceux qui l'ont accepté, il leur dit, je t'ai choisi de toute éternité. Mon cerveau explose, mais je veux juste croire et pas chercher à comprendre. Et pour illustrer ça, si tu veux, et c'est mon illustration, c'est la croix comme une porte. Et d'un côté de la porte, avant d'entrer, il est dit, crois en Jésus, choisis. Et lorsque vous faites ce choix, vous entrez par cette porte, vous vous retournez, et au-dessus de la porte, il est marqué, je t'ai choisi de toute éternité. Et je fais le choix personnellement d'accepter ce mystère et quelque part simplement de me réjouir. De me réjouir que Dieu m'ait choisi et en même temps d'appeler ceux qui sont autour de moi à prendre ce choix de responsabilité. On va avancer au deuxième point que je voulais souligner. Est-ce que quelqu'un a compté le nombre de fois où il y a le mot « 1 » dans ce chapitre ? Vous pourrez vous amuser, moi quand j'étais jeune, j'utilisais la méthode de Ralph Challis, qui consiste à colorier sa Bible avec des couleurs, une couleur pour Jésus-Christ c'était rouge, une couleur pour Dieu c'était bleu, enfin bref. Certains ont pratiqué cette méthode comme moi, ça c'est les vieux. Et donc dans mes premières Bibles, il y avait chaque fois qu'il y avait un, j'avais entouré, alors c'était plein de petits ronds, il y avait des 1 partout. Et dans ce beau chapitre, on voit que ce soit pour les disciples, les apôtres, ou que ce soit pour tous les croyants de tous les temps, Jésus prie pour qu'ils soient un. Verset 11. Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné afin qu'ils soient un comme nous. Verset 20. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tout soit un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, et que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous nous sommes un, moi en eux, toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. Et que le monde connaisse que tu m'as envoyé. Et donc dans cette prière, pour que nous soyons un, le modèle c'est l'unité du Père et du Fils. Et ça a une conséquence sur laquelle je vais revenir, c'est que le monde va croire au message du salut. Alors ces versets ont beaucoup été utilisés pour, quelque part, pousser une démarche de rapprochement des églises dans une logique œcuménique. Et je ne veux pas traiter cela ce matin, on pourrait, mais j'ai choisi de ne pas traiter ça. Je préférais me concentrer sur, quelque part, notre vie personnelle, notre vie d'église, rechercher cette unité. C'est un détail du grec qui fait que il n'est pas dit que nous, il ne prie pas que nous soyons unis. C'est un petit détail de traduction. Il prie que nous soyons un. Et pour moi, je fais la différence entre des nations unies et une nation. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Il prie que nous soyons un. C'est beaucoup plus fort que simplement « soyez unis ». Ouais, ça va, il suit bien, il est super. Et donc... Il prie que nous soyons un comme le Père et le Fils sont un. Il ne prie pas qu'on se supporte. On croit que c'est déjà pas mal, mais bon. Il prie qu'on atteigne l'unité qui existe entre le Père et le Fils. Et je ne veux pas entrer dans une étude de la Trinité, c'est trop profond. Je voudrais juste souligner quelques points sur cette unité qui existe entre le Père et le Fils. Et aussi le Saint-Esprit, mais j'y reviendrai un peu plus tard. La Trinité manifeste un amour infini entre chaque personne de la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Une sainteté absolue, unie par un même but, ce projet de salut. Et puis, personnellement, ce qui me touche beaucoup, moi, c'est que chaque personne de la Trinité est centrée sur la gloire de l'autre. Lorsque Jésus dit « glorifie-moi », dans Jean 17 qu'on a lu, c'est « glorifie-moi afin que tu sois glorifié ». J'ai noté la référence d'1 Corinthiens 15. Il est dit que le Père soumet toute chose au Fils, qui derrière va tout remettre à son Père. Chacun cherche la gloire de l'autre. Et je trouve ça éblouissant. Et quelque part, ce que Jésus prie, c'est que nous soyons un avec ça en objectif. Et petit détail, il ne prie pas seulement que nous soyons un comme le Père et le Fils sont un, mais il prie que nous soyons un, et je vais vous retrouver le verset, afin qu'il soit un en nous. L'unité, elle est quelque part, si je peux m'exprimer ainsi, dans l'intimité du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et c'est là où, dans le chapitre, on ne voit pas apparaître le Saint-Esprit. En fait, il est quasiment partout, puisque chaque fois que on parle de cette intimité du Père et du Fils, c'est la présence du Saint-Esprit en nous qui va faire cela, qui va nous faire qu'on va pouvoir être un et découvrir cette pleine communion avec le Père, le Fils, parce que l'Esprit est en nous. Et ça rejoint le verset 3 qu'on a lu, le verset 3 qui est un magnifique verset. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La vie éternelle, c'est pas simplement qu'on vive très longtemps, etc., au paradis, ou pop, 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 quelque chose comme ça. C'est connaître le Père et le Fils. Et comment je peux connaître le Père et le Fils, si ce n'est par cette présence du Saint-Esprit qui me révèle qui est le Père et le Fils? Et plus nous allons laisser l'Esprit travailler nos cœurs, plus nous connaîtrons le Fils et le Père, et plus nous serons un. Et ma question pour vous, est-ce que vous placez cette relation intime avec Dieu, avec le Père et le Fils, comme une priorité dans vos vies? Ouais, c'est ça, super. Quelle est la conséquence de cette unité? Si tu pries pour l'unité, et la conséquence, par deux fois c'est mentionné, un lien direct, et c'est au verset, je ne l'ai pas noté, mais bon, tout verset 21, « Afin que tous soient un, comme toi Père tu es en moi et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. » Verset 23, c'est pareil. « Le monde connaît ce que tu m'as envoyé. » Il y a un lien direct entre notre unité, l'unité des enfants de Dieu, et l'impact sur ce monde. Et si quelqu'un a bien compris ce verset, c'est Satan, c'est l'ennemi. Puisque une de ses principales tactiques, c'est de briser l'unité d'une église et vous arrêter le témoignage. Ça s'est révélé des milliers de fois. D'où toute l'importance de cette unité. Parce qu'il y a un impact sur, quelque part, le projet de toucher le monde entier. Mais point important, cette prière ne s'adresse pas à nous. Elle s'adresse au Père. Qui va réaliser cette unité? À qui Jésus demande-t-il? Au Père. Qui va répondre à cette prière? C'est le Père. Et c'est par l'action du Saint-Esprit en nous qu'il va créer cette unité. Et comme illustration de quelque part de ce passage-là, c'est ce qui s'est passé à la Pentecôte. À la Pentecôte, la présence du Saint-Esprit conduit à une unité magnifique dans ces premiers temps de l'Église, où tous ces hommes de différentes langues, de différents pays, vont témoigner ensemble de Dieu, vont partager leurs biens, vont être sans cesse ensemble dans le temple, qui a conduit à quoi? De très très nombreuses conversions. Si le Saint-Esprit est libre en nous, alors nous pourrons être un, et cela aura des conséquences dans ce monde. Et ce côté, c'est le côté de Dieu, c'est le côté du Père qui répond à la demande du Fils, qui va répondre à cette prière et qui va construire l'unité entre nous. C'est d'abord son action. Et ça a de quoi nous encourager, parce que s'il n'y avait que nous, ce serait compliqué. Mais il est là et lui, il construit l'unité. Alors on a quand même notre part d'action, comme souvent dans la parole, vous avez les deux côtés, le côté Dieu et notre côté. Alors, on va pour garder un peu d'aspect pratique, sortir de Jean 17, et je vous propose d'aller en Éphésiens 4, pour parler un peu d'unité, mais là, de ce que nous, on peut faire. Alors, il y a de nombreux passages qui parlent de l'unité dans l'Église. On est juste choisi un, celui-là, et il y en a bien d'autres. Éphésiens 4, verset 1er, « Je vous exhorte, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Conservez l'unité de l'esprit. Ce qu'on vient de voir, c'est que cette unité, elle vient par l'Esprit Saint qui est en nous. Et pour juste paraphraser ce texte, où il est parlé d'humilité, de douceur, de patience, de se supporter les uns les autres, la question n'est pas « est-ce que mon frère ou ma sœur est humble ?» Est-ce que je suis humble ? Et je considère que mon avis est meilleur, plus important que celui de mon frère. Je laisse mon frère à sa responsabilité. Quant à moi, je m'intéresse, est-ce que moi je suis humble ? Douceur ? Est-ce que je traite mon frère avec douceur ? Pas est-ce que mon frère me traite moi avec douceur ? Non. Est-ce que je traite mon frère avec pleine douceur ? Est-ce que je suis patient ? Ou est-ce que je suis exigeant avec les autres ? Est-ce que je les supporte ? Avec amour ? Et est-ce que je suis un bâtisseur de paix ? Alors j'ai longtemps hésité avant de lire ce passage-là, parce que c'est difficile. C'est difficile parce que quand je prépare un message et que Dieu me dit « T'es sûr que tu vas lire ça ?» Commence par balayer devant ta porte et puis... et j'ai longuement hésité. Et j'ai quand même décidé de vous le partager en vous confessant que je suis loin d'être exemplaire et que Dieu me montre que j'ai beaucoup de manquements et que j'ai beaucoup de choses à corriger dans ma vie. Et il m'a quand même dit de le partager. Jésus a prié que nous soyons un. C'est la demande qu'il fait au Père. Et le Père va répondre, le Père va le faire. Charge à nous, pour notre part, de marcher, comme il dit, de manière digne, en toute humilité, douceur, patience, nous supportant les uns les autres. Je vais traiter un dernier point et qui fera le lien avec la Sainte Cène. Mais je voudrais vous inviter, comme j'ai dit au départ, de relire cette prière chaque jour pour en mesurer toute la beauté et que vraiment vous puissiez être éblouis par notre Seigneur. Ébloui par cette intimité entre le Père et le Fils, et qu'on puisse vraiment, comme on l'a chanté tout à l'heure, dire qu'il est merveilleux. Si tu veux avancer, et ce dernier point, et ça fera lien avec la scène, le repas du Seigneur, Jésus commence cette prière en disant « L'heure est venue ». Et par plusieurs fois, il a dit par le passé que son heure n'était pas encore venue. Mais en Jean 17, son heure est venue. Parce que dans ces dernières 24 heures, il va être arrêté, jugé, fouetté, crucifié. Et je veux souligner deux points. On a dans cette prière... Je trouve une très très belle illustration de cette intimité entre le Fils et le Père. Et pendant trois heures sombres, le Père qui avait cette parfaite intimité, cette parfaite unité avec son Fils, a quelque part détourné son regard de Père pour être le Dieu saint, qui juge le péché dans toute sa colère et dans toute sa fureur. Et à quelques heures d'intervalle, vous avez une parfaite unité qu'on voit là, et puis, peut-être 24 heures plus tard, vous avez Jésus qui s'adresse à son Père en disant « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et c'était pour moi, c'était pour vous. La parfaite unité du Père et du Fils est déchirée pour que nous puissions entrer dans cette unité, dans cette intimité avec Dieu. Et puis, deuxième pensée, Christ, après cette prière, va aller au jardin de Gethsémané, il sera arrêté, et c'est parfaitement ce qu'il attend. Et dans ce temps-là, il prie pour ses disciples, il prie pour ceux qui croiront, il prie pour vous, il prie pour moi. Et personnellement, ça me touche vraiment que dans ces dernières 24 heures avant d'aller à la croix, il priait déjà pour moi. Il priait pour vous. Je trouve ça bouleversant. Luc, je vais te demander de me rejoindre. Et on va partager ce pain et ce vin qui nous rappelle ce sacrifice, qui nous rappelle que cette parfaite unité a été brisée pour que nous, on puisse rejoindre la famille de Dieu et entrer dans cette intimité. On va juste prier et puis on va distribuer. Je vous rappelle juste que ce repas est pour ceux qui ont fait ce choix. Pour ceux qui n'ont pas fait ce choix, je vous invite à réfléchir. Et puis vous rappelez qu'à l'extérieur, ce sont le vin et le jus de raisin est au milieu. Et puis après qu'on ait prié, Luc et moi, on va distribuer. Et puis je vous invite à prier et à adorer notre Dieu.
Tu veux prier ?
Oui, Seigneur Jésus, nous te disons merci, Seigneur. Merci pour les prières que tu as faites avec le Père, Seigneur. Tu m'as intercédé pour nous, Seigneur, par amour. Seigneur, merci pour ton corps qui a été meurtri, pour ton sang qui a été versé.